Bonjour à tout le monde, je vous invite à ouvrir votre Bible et on va continuer notre étude dans l'épître de Galates. Et on va lire le chapitre 3 aujourd'hui, Galates chapitre 3, verset 1 à 29. C'est peut-être pas la plus agréable des épîtres à étudier, je dirais, parce qu'on aime bien parler de l'amour de Jésus, de la vie, mais c'est une épître qui est dans la Bible et à ce qui paraît la Bible est inspirée. Enfin, vous croyez, j'espère. Et donc ça veut dire que le Seigneur nous l'a laissé pour qu'on l'étudie aussi et qu'on essaie d'en tirer des leçons pour nous. Donc Galates chapitre 3, on va lire les versets 1 à 29. Attends que tout le monde trouve. Prenez votre temps, je ne suis pas pressé. Je suis là toute la journée moi. Allez. Verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles par vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or la foi ne procède pas de la foi, la loi pardon, ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule. « Et à ta descendance », c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé entièrement antérieurement ne peut être annulé. Et ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il y avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, un pédagogue, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça vous parle? Pas évident comme passage. On va essayer de l'expliquer et d'être le plus clair possible. Mais au fond, il y a des choses à apprendre. On a vu au chapitre 1 que Paul va défendre le vrai évangile, puisque c'est son objectif qu'il a reçu de la part de Dieu par révélation. On a vu dans le chapitre 2 qu'il va défendre l'évangile, mais par rapport aux influences qui peuvent arriver parfois vis-à-vis de l'évangile, et particulièrement les judaïsants qui étaient là et qui voulaient qu'on retourne à la loi. Et maintenant, il rentre vraiment au cœur du sujet de cette différence entre la loi et la foi, entre la loi et la grâce. Première chose qu'il nous apprend, c'est que la loi ne justifie pas. Alors, au départ, Paul a un choc, il traite les Galates d'une certaine manière, quand même, il est surpris. Parce qu'il dit, mais c'est quoi cette folie, cet envoûtement, on pourrait même dire, d'après le grec, les Galates, ils refusent maintenant l'instruction de la parole de Dieu. C'est comme si on leur avait appris, ils ont dit oui, et puis d'un seul coup, ils changent complètement d'avis. Ça cause certainement l'influence des judaïsants. Et il dit, Paul, il apprend d'eux que maintenant, ils croient que l'esprit est donné par les œuvres de la loi. Il faut revenir à la loi de Moïse, et c'est comme ça qu'on recevra le Saint-Esprit. Évidemment, c'est pas comme cela, nous dit la Bible. Et il les traite de dépourvus de sens. Un jour, je vais me permettre ça aussi. Traiter ceux qui ne sont pas d'accord de dépourvus de sens. Bon, après, c'est Paul, c'est pas... Mais son problème, c'est qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette théologie qui est complètement biaisée d'un seul coup? Vous étiez dans le bon chemin, et d'un seul coup, il y a trois gars qui viennent, et vous partez dans n'importe quelle théologie. Certainement parce qu'il manquait de connaissances, ça c'est clair. Influencé peut-être fortement, avec peut-être pas le caractère de défendre des fois la parole comme Paul est en train de le faire, mais ils remettent en question la croix, la grâce tout simplement, en voulant retourner vers la loi, en disant que le Saint-Esprit vient de la loi, là ils sont en train de retourner tout simplement sous la loi et ils crucifient Jésus pour rien là, quelque part. Mais l'Esprit est accordé seulement par la justification, par la foi. On en avait déjà parlé la dernière fois, un chrétien, quand il se repent, quand il accepte Jésus-Christ dans sa vie, il est justifié, ça veut dire qu'il est déclaré juste. Il sort du tribunal parce que Jésus a pris sa place, il est mort à ma place, et moi je suis déclaré juste et je peux sortir, libéré de cette punition que je méritais évidemment, mais que Jésus-Christ a pris à ma place. Et je le fais par la foi. Vous êtes sûr d'être sauvé? Vous avez un diplôme ou quelque chose en main là? Personne ne peut le prouver. Si, on peut le prouver par la foi, mais on n'a rien, il n'y a pas de papier, il n'y a rien de solide quelque part. Donc on le croit par la foi qu'on est sauvé. Mais il faut évidemment passer par la repentance, enfin une vraie repentance, et accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Et c'est là où je suis justifié par la foi. Et c'est ce que Paul rappelle à ses Galates. Ce n'est pas en obéissant à la loi qu'ils vont être sauvés, c'est en étant justifiés par la foi. L'Esprit, le Saint-Esprit ne vient pas par la loi, parce qu'il y a d'autres passages dans la Bible qui le disent, mais par la prédication, il va y arriver avec ce mot, de la foi, c'est en entendant la parole de Dieu, enfin je pense que vous vous êtes converti, ça ne vous est pas tombé un jour sur le coin de la figure, tiens, je vais me convertir. Non, ça ne vous est pas arrivé comme ça. Mais vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez peut-être lu la Bible, vous avez eu un témoignage, quelqu'un qui vous a lu un passage de la Bible, et c'est par cette prédication que cette foi tout doucement a grandi, et à un moment vous avez accepté, je l'espère en tout cas pour tout le monde, Jésus-Christ dans votre vie. L'Esprit est donc donné pour ceux qui ont la foi. Au moment où je nais de nouveau, où je me suis converti, je reçois aussi le Saint-Esprit, nous dit 1 Corinthiens et d'autres passages, Éphésiens, etc. C'est donc pas par mes œuvres ou par la loi que je reçois le Saint-Esprit, c'est par le fait que je me sois repenti, que je sois né de nouveau. Et la Bible nous demande justement de marcher par le Saint-Esprit. On va le voir un peu plus tard dans Galates, et non pas par la loi. Puis le Saint-Esprit ne se reçoit pas non plus par le parler en langue comme on entend aujourd'hui. Si vous ne parlez pas en langue, vous n'aurez pas le Saint-Esprit, c'est complètement faux. La Bible dit que c'est au moment où on est sauvé. Et c'est là où je reçois le Saint-Esprit. Et puis il va prendre un exemple, Abraham. Tout le monde connaît Abraham, même pas que chez les évangéliques, même chez les musulmans, partout. Tout le monde connaît Abraham. Et donc pour ces Galates, il va leur parler que lui, il y a très 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 longtemps, a été justifié par la foi. La loi n'était pas encore venue. Il dit, il a été déjà justifié par la foi. C'est là où l'argument est fort, pour ceux qui comprennent. Abraham ne vécut donc pas sous la loi, puisqu'il est venu bien avant 430 ans environ, comme il disait. Pourtant, il a été justifié par la foi, comme vous l'êtes, vous, aujourd'hui. Ça n'a jamais changé la manière d'être sauvé. Les époques changent, puisqu'il y a la loi, on parle de dispensation généralement, il y a la loi, il y a plusieurs dispensations, aujourd'hui on est celle de l'Église, mais la manière d'être sauvé, Paul dit à ses Galates, n'a jamais changé. Et c'est formidable, heureusement, parce que si chaque fois il fallait que ça change, on ne sait plus où on en serait, quelque part. Mais Abraham a été sauvé par sa foi, tout simplement. Il a cru Dieu, et quand on connaît l'histoire d'Abraham, vous êtes prêts à sacrifier votre fils, vos enfants? Vous regardez bizarre. Pourtant, lui, il était prêt à le faire parce qu'il avait foi en Dieu. Après, c'était Abraham. Mais il a été justifié par sa foi. Donc ce n'est pas par la loi, puisqu'elle va venir beaucoup plus tard, qu'il peut être justifié, parce qu'il aurait fait les œuvres, mais c'est parce qu'il a cru, bien avant la loi, qu'il est justifié par la foi. Donc Paul veut leur dire, arrêtez de croire que c'est la loi, on était déjà sauvé par la foi, bien avant que la loi même puisse être imaginée et que Dieu la donne à Israël. Et puis il rappelle que le juste vivra par la foi, ça se trouve où ça? Dans quel prophète? Habacuc. Un beau verset qui est bien connu, le juste vivra par la foi. Donc même dans l'esprit des prophètes, ils avaient bien compris que le salut se faisait par la foi et non pas par la loi. Donc cette loi, on est d'accord, elle n'offre pas le salut. On est tous d'accord?
Oui.
J'espère. C'est juste pour que je vous fasse travailler un peu ce matin. Mais vient de la prédication de la foi. Et évidemment, il faut accepter l'évangile, il faut accepter le pardon, de demander pardon pour ses péchés au Seigneur. Mais c'est par la foi que tout cela se fait. Il poursuit en disant que la loi était inférieure à la promesse. Et il va parler de deux erreurs que font là les Galates. La première, c'est de se dire que si je suis juif, c'est-à-dire de nationalité juive, je fais partie automatiquement de la descendance d'Abraham. Hein ? Je suis juif, donc je suis sauvé quelque part. C'est ce qu'il dit. C'est complètement faux. Et les juifs ne comprennent pas aujourd'hui. Paul rappelle que les vrais fils d'Abraham, pas la descendance physique, mais plutôt celle spirituelle, on va dire, les vrais descendants d'Abraham, ce sont ceux qui sont justifiés par la foi, justement. Nous. Vous avez pour arrière-grand-père spirituel, on pourrait dire, Abraham. Je ne sais pas si vous le saviez. Vous pourriez lui envoyer une petite carte à son anniversaire, hein, un de ses jours. Mais c'est nous qui sommes cette descendance d'Abraham, pas ceux qui font partie de la nation physique d'Israël. Alors dans cette nation physique d'Israël, il y a des juifs qui se convertissent aujourd'hui et qui vont donc faire partie de la descendance d'Abraham. Mais il faut se convertir, il faut passer par Jésus-Christ pour faire partie de cette descendance. Ce n'est pas parce que je suis juif ou né juif que forcément je fais partie de cette descendance. Vous comprenez l'idée? Venez voir à la fin sinon. Mais même l'Écriture, il prévoyait cela. Hein, dans Genèse 12, 3, il dit « Je bénirai ceux qui te béniront » en parlant à Abraham, « Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il n'a pas dit juste les juifs, il a dit toutes. Alors Dieu avait un plan évidemment pour le peuple juif, il n'y a aucun problème là-dessus, on est tout à fait d'accord, Dieu fait ce qu'il veut, mais la bénédiction était étendue à tout le monde. Alors à ce moment-là, Abraham ne pouvait pas comprendre qu'un jour il y aurait l'Église, que Jésus viendrait, etc. Mais nous, avec le recul, c'est ça qui est formidable, on a la chance aujourd'hui d'avoir le recul sur toutes ces choses et de comprendre. Et donc, c'est toutes les nations qui sont bénies de cette promesse, qui vont connaître la promesse et la bénédiction justement d'Abraham. La vraie postérité, comme il dit au verset 16, c'est une seule postérité, pas plusieurs. Hein. Comme il dit, il n'est pas dit « aux descendances », mais à sa postérité, à une seule descendance. Et cette descendance, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Et elle fait, c'est l'Église, c'est tous ceux qui se convertissent. Alors, l'Église a commencé à la côte, hein, mais avant, il y a des gens qui se sont aussi convertis, qui ont accepté par la foi Dieu de le suivre. Hein. On ne pouvait pas dire à ce moment-là « en Jésus-Christ », puisque vous ne connaissez pas encore Jésus vraiment. Mais cette postérité unique, c'est celle de Christ, qui est depuis le début et qui ira jusqu'à la fin. Il n'y a pas 50 postérités. Et c'est là où il faisait l'erreur de croire que parce que je suis juif, je fais partie de la nation, parce que je descends de... Non, ce n'est pas ça qui sauve. C'est cette postérité en Christ qui réunit tous les croyants de tous les temps par la foi. Pour nous aujourd'hui... Il faut bien comprendre que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans la famille ou comme une espèce d'héritage parce que papa et maman vont à l'église, donc forcément je suis converti. Ou parce que mon arrière-grand-père était pasteur, alors forcément je vais être converti. Complètement faux ça. C'est un acte personnel, c'est une décision personnelle. Je dois à un moment plier de genoux devant Dieu, demander pardon pour mes péchés et accepter tout simplement le sauveur, parce que j'ai besoin d'un sauveur à ce moment-là. Donc ce n'est pas un héritage qu'on se transmet. Alors, on se le transmet d'une autre manière. On va parler à nos enfants de Jésus-Christ. On va essayer de leur en parler. Mais après, ils auront leur décision à prendre et faire leur choix. Donc ça aussi, peut-être les Galates n'avaient pas tout à fait compris, ou les judaïsants qui venaient leur labourer le cerveau, leur faisaient croire peut-être que non, mais faites partie des juifs comme ça. Vous serez sauvés. Complètement faux. La deuxième erreur, c'est que pour eux, ils pensaient que la loi était supérieure à la promesse que Dieu faisait. Non, la promesse, comme dit Paul, elle est supérieure à la loi. Dieu a fait la promesse bien avant la loi à Abraham, et plus tard, il va offrir la loi. Mais quand il a fait la promesse au début, et que la loi est venue, il n'a pas annulé la promesse. C'était un temps où il y aura la loi, on va voir pourquoi, et ensuite, cette promesse était toujours valable. Et elle est valable jusqu'à nous encore aujourd'hui. Ça va ? Vous suivez? C'est que c'est pas évident. Mais donc c'est ce qu'il veut leur dire. Hein. La foi était bien avant la loi. Hein. Et donc cette alliance qui on appelle nous en théologie irrévocable ou inaltérable, hein, comme il dit, quand un testament est fait, ben, généralement on n'y touche pas. On n'a pas le droit selon la loi, même déjà à l'époque. Et ce testament, quelque part cette promesse, personne, de par leur comportement, leur manière d'être, ou d'aller peut-être au ciel pour l'arracher, c'est pas possible de toute façon, mais personne ne pouvait y toucher. C'est comme un testament. Dieu avait fait une promesse, comme on fait un testament, et nul ne pouvait y toucher, jusqu'au moment où Dieu l'accomplissait tout simplement, au travers des nations, au travers de l'Église, etc. Et on parle aussi d'alliance inconditionnelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, avec Abraham. Alors, il faut comprendre qu'autrefois, une alliance, parce que c'est vieux, hein, se ratifiait d'une certaine manière. Les deux parties venaient, prenaient une bête, la découpaient en morceaux et mettaient les morceaux sur deux rangées comme cela. Et normalement, l'alliance qu'on allait contracter entre les deux parties devaient marcher au travers des deux colonnes, on pourrait dire de viande. Je vais dire, s'il y avait Brigitte Bardot ce jour-là, là, mieux. Mais bon, c'était comme ça normalement qu'on ratifiait l'alliance. C'était normal. La seule différence, c'est que quand Dieu a fait alliance avec Abraham, Abraham s'est endormi et Dieu seul est passé au travers de ces morceaux de viande pour dire simplement que c'est que moi qui fais l'alliance. Et l'alliance, en fait, normalement, dépendait des deux parties généralement parce que les deux devaient se conformer à ce qu'ils avaient décidé. Mais là, tout dépendait simplement de Dieu. C'est formidable quand on y pense. Donc, cette alliance est inconditionnelle. Et donc, tout dépendait tout simplement de Dieu et pas de Abraham et non pas de son obéissance ni de l'obéissance du peuple juif plus tard. Tout dépendait seulement de Dieu. Heureusement, vous imaginez si cette promesse qu'il avait fait que par la foi on va être sauvé, etc., ne dépendait de notre manière de vivre, qui serait sauvé ici? Personne. Heureusement que le Seigneur a fait cette alliance seul. Et Abraham avait compris cela à ce moment-là, et Paul aussi. Donc le salut va venir de cette promesse qui a été faite, promesse inconditionnelle. Personne ne peut y toucher comme un testament. Dieu a décidé qu'on sera sauvé par la foi de toute époque. Et heureusement que ça se passe comme cela. Donc ça ne vient pas par la loi. Quelque part, ça doit nous soulager. Hein. Vous imaginez, s'il fallait faire toutes les œuvres de la loi, il faut les faire toutes pour pouvoir être sauvé. Pas en louper une seule fois dans votre vie, qui est capable de faire ça? Ah, si, il y a quelqu'un qui l'a fait, Jésus-Christ. Donc, personne n'aurait pu être sauvé, ça aurait été terrifiant. Heureusement que le Seigneur est plein de miséricorde et de grâce avec nous. Ça, on peut le tirer aussi du texte. Hein. Il nous aime, hein, vraiment, pour faire tout pour qu'on puisse être sauvé. Mais la promesse ne vient pas donc de la loi, c'est le sauvé est justifié par la foi et non par les œuvres ou par ce qu'il peut faire. Et donc la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est le don justement de cette grâce. Abraham ne pouvait pas comprendre à ce moment-là, quand Dieu a contracté cette alliance, qu'un jour la grâce viendrait. Mais il comprenait un petit peu les choses. Mais nous, avec le recul maintenant, on sait pourquoi cette alliance a été faite. Qu'est-ce que ça peut bien m'apprendre pour moi aujourd'hui? Loi, grâce, loi, foi, hein, c'est un peu pénible. Ben, peut-être certains se croient chrétiens. On l'a dit tout à l'heure, peut-être parce que ma famille est chrétienne, peut-être parce que mes parents vont à l'église, parce que mes cousins arrière vont à l'église, et j'ai l'impression d'être chrétien. Paul le rappelle que non. C'est pas parce qu'on fait partie soit de la famille ou d'un peuple comme Israël qu'on est forcément en faire partie de la descendance d'Abraham et donc de Christ. Hein. À nous de dire à nos enfants, peut-être, c'est pas parce que papa et maman vont à l'église ou que vous allez à l'école du dimanche que vous êtes sauvés. Pas forcément qu'aux enfants. Hein. Peut-être d'autres peuvent le croire aussi. Deuxième chose, il y a peut-être des gens qui essaient de faire un tas de choses pour être sauvés aujourd'hui. Bon, souvent, c'est comme ça dans la religion, mais peut-être même chez les chrétiens. On essaie de faire les choses. Hein. Il y en a qui travaillent énormément dans l'église en se disant « je vais être sauvé plus que les autres ». Non. Ben non. Alors, je vous encourage évidemment à servir, sans vous rendre malade, parce que si je vous vois tout le temps à l'église, je vous fous dehors. Excusez-moi le terme. Vous avez une famille, vous avez des choses à régler aussi à la maison. On est bien d'accord. Mais c'est pas en faisant que l'on est sauvé. Mais une fois qu'on est sauvé, il faut faire. Ben oui, puisqu'on est appelé à servir le Seigneur. Mais c'est pas ça qui va me sauver. Comme Abraham, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que nous soyons justifiés par la foi, et je pense que vous l'êtes, mais à expliquer peut-être aux gens, des fois religieux surtout, qui ne comprennent pas que « Ah ben non, moi, je suis bon, je ne fais pas de mal, je vais à l'église tous les dimanches, et puis non, voilà, je suis sauvé. » Ben non. Est-ce que tu es justifié par la foi? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as compris? Poser la question à un catholique, il nous regarde avec des yeux bizarres. C'est quoi ce truc? Parce qu'eux, ils sont sauvés parce qu'ils font partie de l'Église, selon la doctrine catholique. Hors de l'Église, point de salut, comme ils disent. C'est pour ça qu'on baptise les bébés tout de suite, comme ça, ils sont dans l'Église. Mais ça ne sauve pas. Ils n'ont même pas l'assurance du salut. Au bout, c'est triste. Troisième chose que nous apprend notre cher Paul, c'est que la loi avait des objectifs. Et c'est là, peut-être, on va mieux comprendre les choses. Le premier objectif, c'est que la loi, en fait, est venue là comme une malédiction, en fait, pour l'homme. On se demande, mais pourquoi Dieu a fait ça ? S'attacher aux œuvres de la loi, dit Paul, conduit finalement à cette malédiction. Parce que, en fait, au moment où Dieu a promulgué la loi, il a dit « tu ne voleras point ». Jusqu'à présent, l'homme volait. Il y avait sa conscience peut-être qui était un peu travaillée, mais là, maintenant, Dieu dit « tu ne voleras point ». Plus. Ah, ça me pose un problème, là. Parce que maintenant, je sais que je vais contre ce que Dieu veut. Avant, j'arrangeais ma conscience. Peut-être je le savais. Mais maintenant, c'est clairement dit par Dieu « je ne dois plus voler, je ne dois plus convoiter, je ne dois plus... etc., etc. On connaît tous les 10 commandements et tous les autres commandements. Et c'est là où la loi devient une forme de malédiction, parce qu'elle révèle en fait le péché. Et non seulement elle révèle le péché, mais comme il dit, comme personne ne peut obéir à la loi, eh bien elle conduit à la mort. Les gars-là disent, non, nous on veut faire la loi pour être sauvés. Et Paul dit, ben non, si vous accomplissez la loi, vous allez mourir en fait. Et comme de toute façon vous n'arrivez jamais à l'accomplir parfaitement... Ça vous tue. Vous voyez la différence entre les deux? C'est important. La loi ne sauve pas. Paul fait ce contraste avec Habacuc, hein, en disant « le juste vit par la foi et non pas par la loi ». C'est pour ça qu'il le dit. Donc les judaïsants, les galates et les juifs encore aujourd'hui, et peut-être les religions, pensent être sauvés par ce qu'ils vont faire, et c'est complètement faux. La loi est venue comme une malédiction. Il dit au verset 12 « la loi ne procède pas de la foi hein. ». La foi n'est pas le résultat d'une juste observation de la loi. Vous pouvez venir à l'église tous les jours, faire tous les machins qu'il faut, etc., parce que vous voulez le faire sous la loi, pour montrer à Dieu que vous faites, mais ça ne produira jamais la foi. Jamais. Il faut lire la Bible. Il faut accepter ce que la Bible dit de vrai. Et à ce moment-là, surtout quand je me découvrirai comme je suis, à ce moment-là, je vais commencer à avoir la foi qui va grandir en moi et me rendre compte que tout ce que je faisais, ça ne servait à rien pour me sauver. C'est par la foi que je suis convaincu que je suis pécheur. C'est par la foi que je suis convaincu que je suis perdu à cause de mon péché. Mais c'est aussi par la foi que je suis convaincu que Dieu a pourvu par un sauveur en Jésus-Christ. Tout se fait par la foi. Et celui qui a la foi, en contraste à celui qui veut se mettre sous la loi mais qui n'arrive pas à pratiquer la loi en entier, celui qui est sous la foi maintenant, qui a la foi, eh bien Dieu lui donne la possibilité de tout faire. C'est formidable quand on y pense. Avant, on essayait de faire tout par nous-mêmes, on n'y arrivait pas. On arrête de chercher à le faire par nous-mêmes, on accepte le don de Christ et il nous permet aujourd'hui de devenir obéissant à toute la loi. Alors, il n'y a plus les lois cérémonielles, toutes ces choses-là, mais tu ne voleras point. Quand vous commencez à aller dans un magasin et que vous commencez à voler en tant que chrétien, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur ? Saint-Esprit, il est... Il y a un problème, alors vous arrêtez. Ou des fois, quand on vous rend là un peu trop d'argent, comme ça arrive des fois, qu'est-ce que vous faites ? Ben vous retournez, pauvre caissière, sinon elle va se faire taper sur les doigts. Il y a quelque chose qui a changé en nous, parce que Dieu m'aide, au travers de son esprit, à accomplir la loi. Alors on se met encore à se disputer. Enfin, moi, je sais que vous, c'est réglé depuis longtemps. Mais on a encore des péchés qui sont là. Mais avec le temps, avec cette sanctification, Dieu nous permet de devenir de plus en plus obéissants. C'est génial. On n'a rien à faire. Enfin... quand même écouter le Seigneur, on est bien d'accord, et le suivre dans son plan. Mais ce n'est pas la même chose que si je devais tout faire par mes propres forces. C'est toute la nuance. La force vient du Seigneur, à condition évidemment qu'on le laisse faire dans notre vie. Et celui qui a la foi n'est plus asservi quelque part à Dieu. Il le fait avec une joie. Hein, faire la loi, c'était... il fallait prendre son agneau et faire sacrifice. C'était un peu pénible. Mais aujourd'hui, on a la joie, enfin j'espère, de pouvoir obéir au Seigneur. Et en plus, on a la joie de savoir qu'il nous aide. C'est ça qui est formidable. Enfin, j'espère, pour vous. Christ nous a rachetés de la loi, justement, et il a promis l'Esprit, verset 13-14. Jésus a pris cette malédiction de la loi, et il l'a pris quand il allait à la croix. C'était une malédiction d'être crucifié. Et c'est pour ça que les Juifs l'ont regardé comme quelqu'un de rien, parce que quelqu'un qui est maudit par Dieu. La preuve, il est crucifié. Mais ils n'ont rien compris à ce moment-là. Il a pris la malédiction de la loi. Il s'est offert tout simplement un sacrifice pour nous, parce que nous ne pouvons rien faire d'autre que qu'il aille à la croix. Il est devenu malédiction pour nous, là où nous, nous devions mourir, il a pris ma place. Et par sa mort, il nous a offert le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il nous aide à obéir. Alors peut-être Galate est un peu compliqué, mais ça, on peut le comprendre. Et ça devrait nous réjouir quand même. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, là où on était perdu d'avance, dans notre façon de faire, de vouloir nous sauver, eh bien, il a tout fait le travail pour nous. Et aujourd'hui, on a juste à l'accepter. Alors vous l'avez peut-être accepté, ça fait 20 ans, on a marre de parler toujours ça, mais il faudrait quand même dans le cœur, il y ait de la joie et de la reconnaissance. C'est ce qui booste en fait le chrétien, normalement, de se souvenir que Jésus est mort pour lui et à sa place. Ça vous réjouit ? Un petit peu, hein ? C'est vrai, un peu de joie là-haut ! Ça devrait nous réjouir ! Parce que c'est tellement beau de savoir qu'on était complètement perdu, mais impossible de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et on devrait des fois être dans cet état-là pour bien comprendre d'où on vient et ce que le Seigneur a permis que nous vivions aujourd'hui. Et dit les païens, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas juifs, hein, tous ceux qui ne sont pas juifs, profitent aussi justement de cette promesse. Et c'est ce qui arrivera avec l'Église, où justement maintenant les païens profitent de cette promesse qui a été faite à Abraham et profitent de la grâce. Un deuxième objectif de loi, enfin, c'était de conduire à la grâce, en fait. La loi fut donnée, il dit, à cause des transgressions, à cause de nos péchés. Le terme en grec, transgression, c'est quand on dépasse les bornes. C'est-à-dire quand on pêche, mais à un moment, tu as vu, on voit la tour de Babel, on voit un tas d'autres choses, on a vu que les hommes ont vraiment dépassé les bornes. Nous-mêmes, hein, avant qu'on soit chrétiens, je pense qu'on a aussi dépassé des fois les bornes. Et la loi a été donnée pour cela, pour que l'homme réfléchisse, pour que l'homme soit poussé à arrêter de pécher. Hein, tu ne voleras point. Ah, ma conscience est encore plus travaillée maintenant. Bon, je vais essayer d'obéir à Dieu, j'ai du mal, mais je vais essayer. Et ça devait le pousser non seulement à arrêter de pécher, mais quand il savait qu'il était dans cet état de péché, il savait aussi qu'il méritait la mort. Et oui, c'est pour ça qu'il faisait des sacrifices. Et en sachant qu'ils étaient dans cet état-là, la loi leur disait, mais courez vers votre sauveur. C'est ce qu'il veut dire, Paul, tout simplement. Courez maintenant vers le sauveur. Vous avez réalisé votre péché, vous avez réalisé que vous ne pouvez pas pratiquer la loi, que la mort, c'est le seul résultat qu'il y aura, mais courez vers le sauveur. Il a tout donné. Faites-le, allez-y. Donc la loi, quelque part, révélait le péché, révélait sa condamnation, mais poussait finalement vers la grâce. Et c'est ce qui va arriver avec Jésus-Christ, tout simplement. Elle était là pour faire désirer la promesse de la grâce. C'est formidable, ça, quelque part. Alors, à l'époque, il y avait des sacrifices, ça couvrait le péché, mais ça n'effaçait pas le péché. Mais c'était par préfiguration de ce que Christ allait faire plus tard. Donc, cette loi faisait désirer, justement, la grâce. La venue de cette descendance et de ces nations qui vont aussi faire partie de cette descendance. On l'a dit, cette descendance, c'est la postérité d'Abraham, tous ceux qui se confient en Jésus-Christ par la foi. Alors, il dit, il y a un temps nécessaire pour désirer la grâce. Alors, peut-être qu'il a fallu un temps pour bien montrer aux Juifs, et peut-être tous ceux qui voulaient obéir à la loi, que ce n'était impossible. Alors, ça n'a pas été prouvé pour tout le monde, parce qu'il y en a encore beaucoup qui essaient d'être sous la loi, hein, chez les Juifs, et peut-être d'autres encore. Mais il a fallu un temps pour peut-être convaincre les gens, et jusqu'au moment où Jésus-Christ est venu et a offert sa vie, et a offert cette grâce, enfin. Pour apprendre aussi à se confier en Dieu, plutôt que dans ses propres œuvres, hein, la loi était là pour nous pousser, en fait, à être dépendants de Dieu. Il dit que la loi a été promulguée par des anges. Les anges, en fait, représentaient Dieu. Parce qu'au moment où Moïse recevra les 10 commandements, certainement que les anges étaient là à travailler pour... On ne sait pas exactement comment ils l'ont fait, mais il y avait un travail... les anges représentaient Dieu et parlent d'un médiateur aussi. Ce médiateur, c'était Moïse, ensuite, qui lui va représenter le peuple. Alors le verset 20, il est un peu compliqué, mais on va essayer de l'expliquer. Je le relis juste pour nous mettre dans la tête. « Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. » Vous avez tout compris ? Pas évident. J'ai pris les commentaires, comme ça c'est plus simple, vous allez comprendre. S'il n'y avait qu'une partie contractante qui ferait la promesse inconditionnelle, n'engageant en rien l'autre partie, on n'a pas besoin d'un médiateur. Vous savez, quand il y a deux personnes qui font une alliance, il y avait quelqu'un qui était là pour dire « oui, vous avez fait l'alliance ». C'est pas de témoin, on pourrait dire, mais un médiateur. Puisque la loi demandait un médiateur, l'homme devait respecter sa part du contrat. C'était là, en fait, la faiblesse de la loi. Elle exigeait l'obéissance de ceux qui n'en avaient pas le pouvoir. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, il était le seul parti contractant, comme on a vu tout à l'heure, cela faisait la force de la promesse, tout dépendait de Dieu et rien de l'homme, aucun médiateur n'était impliqué puisqu'il n'en fallait aucun. Je ne sais pas si vous avez mieux compris, s'il y a deux parties dans une alliance traditionnelle, si deux parties contractaient une alliance, généralement il y avait un médiateur, quelqu'un qui disait « oui, vous avez fait cette alliance ». Mais comme Dieu a fait l'alliance tout seul, ben, il n'y avait pas besoin de quelqu'un pour le prouver parce que Dieu le prouve lui-même. Ça va mieux ? Voilà. C'est ce qu'il voulait tout simplement dire là, dans une phase un petit peu compliquée. Et moi, je ne sais plus où j'en suis. Oui, c'est verset. Ouais. Donc cette promesse, c'est encore un argument, dépendait tout simplement de Dieu. Et la grâce qui devait arriver ne dépendait absolument que de Dieu. Mais la loi exigeait l'obéissance de l'homme. Hein, mais malgré qu'elle exigeait cette obéissance, ben, ce n'est pas pour ça qu'elle conduisait au salut. Par contre, la promesse de la foi, l'homme ne fait rien. Enfin, à part se repentir, évidemment, et accepter de naître de nouveau. Mais après, Dieu lui permet d'obéir. On a de la chance, quand même, quand on y réfléchit, non ? Oui, vous allez dire, oh, bon, moi, je suis sauvé, c'est réglé. Mais des fois, c'est bien aussi de prendre le temps d'étudier, de comprendre d'où on vient et ce que Dieu a fait dans notre vie. Aussi, la loi poussait l'homme à se reconnaître pécheur, tout simplement. Et parce qu'il se reconnaît pécheur, ça, c'est toujours valable aujourd'hui, quelque part. Dès qu'on est pécheur, qu'est-ce qu'on fait ? Si on sait qu'on est condamné, si on sait qu'on va mourir et qu'on part pour l'enfer, et que quelqu'un vous propose le salut, vous faites quoi ? Ben, pardon. Enfin, tout le monde ne le fait pas, hélas. Parce qu'il est dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que Dieu, par son esprit, va travailler le cœur de tous les hommes, ou par la prédication. Et il y a des gens qui sont peut-être convaincus dans leur cœur et qui disent non. Je ne sais pas si vous connaissez Baudelaire, écrivain. Lui, il a dit « Je connais Dieu, mais j'en veux pas. » Il préférait l'enfer. Qu'il y a des gens qui sont prêts à accepter plutôt l'enfer, suivre Satan, que accepter la grâce de Dieu. Après, c'est leur problème, hein, parce qu'on est termite et brûlante. Et une quatrième chose que notre cher Paul veut nous apprendre, c'est que la loi était un pédagogue menant à la grâce. Avant, la loi rendait esclave. Il dit « tout était enfermé sous la garde de la loi ». Le terme « renfermé » signifie « impossible d'y échapper ». C'était une espèce de garde militaire. Il fallait marcher selon la loi. Si vous voulez vous en échapper, il y a un garde qui me disait « oh, tu reviens ». Voilà, simplement. Donc tout était renfermé sous la loi avec l'objectif, on l'a dit, d'atteindre la foi qui devait être révélée beaucoup plus tard. Je pense qu'on pouvait avoir la foi déjà à ce moment-là. Hein. Moïse avait la foi. Il avait compris quand même certaines choses. Mais Paul dit que la loi était un pédagogue ou un précepteur, selon vos traductions que vous avez, pour nous conduire à la justification par la foi. Alors, le pédagogue, il faut se remettre un peu à l'époque, hein, parce que nous, on n'a plus ça aujourd'hui. C'était un tuteur, en fait, qui dirigeait un garçon, par exemple, qui était un esclave, et qui était là, un tuteur, jusqu'à la majorité de l'enfant. Hein, l'esclave était là et accompagnait cet enfant. Souvent, c'était dans les familles riches, je pense. Et donc, c'était son pédagogue jusqu'au moment où il avait la majorité. Et le pédagogue, ben, il s'en allait et l'enfant pouvait faire ce qu'il voulait. Un tuteur était un gardien, une espèce de guide aussi du garçon. Et parmi les Grecs et les Romains, le mot était appliqué aux esclaves dits de confiance qui étaient chargés de veiller à la vie et à la moralité du garçon appartenant aux classes supérieures. Les garçons ne pouvaient faire le moindre pas hors de la maison sans que le tuteur les suive, c'est-à-dire le pédagogue, et cela tant qu'ils n'avaient pas atteint leur majorité. Donc à côté d'eux, ils avaient toujours quelqu'un qui les aidait, je pense qu'il les instruisait, mais ils ne pouvaient rien faire sans lui. Et la loi était un petit peu de ce pédagogue, au moment où elle était promulguée, une espèce de gouvernante très stricte. Hein, je ne connaissais des gouvernantes, mais voilà. Et on sait bien que la loi est stricte, hein, on veut vraiment l'appliquer. Elle révélait à ce moment-là, quelque part, ben, la misère du pécheur. C'est bien d'avoir des fois quelqu'un à côté qui nous instruit, qui nous aide, qui nous rattrape peut-être dans nos bêtises, hein, et qui nous humilie. Hein. Apparemment, la loi devait humilier normalement celui qui vivait à ce moment-là, mais toujours pour le conduire à Christ. Quelqu'un a écrit justement « Nous ne pouvons pas aller à Christ pour être justifiés avant d'être allés à Moïse pour être condamnés. » Mais une fois que nous sommes allés à Moïse, donc la loi, hein, et que nous avons reconnu notre péché, notre culpabilité, notre condamnation, nous ne devons pas rester là. Il dit, nous devons laisser Moïse, donc on laisse la loi, pour nous envoyer à Christ, vers la grâce, tout simplement. Donc cette loi, Paul dit, elle était là un temps, elle révélait le péché, elle révélait la condamnation, mais elle disait, Il y a la grâce qui arrive et c'est ça qu'il faudra saisir, tout simplement. Et lorsque la foi... Alors, la loi a conduit sous l'esclavage, mais quand la foi est venue, liberté. C'est bon d'être libre, non ? Vous préférez être esclave ou libre ? Vraiment. L'avantage de la justification par la foi, hein, c'est ce passage, on va dire, à la majorité. Hein, comme on avait vu, le pédagogue, une fois que le gamin était majeur, le pédagogue partait et l'enfant pouvait enfin vivre après avoir été éduqué. Il dit « Nous sommes fils de Dieu et filles hein, ». Je pense aux dames quand même. Mais nous sommes fils de Dieu et ce pédagogue qui était la loi autrefois n'est plus à craindre aujourd'hui parce que là où il était à craindre autrefois, nous, on est en tant que fils, nous avons un Dieu avec une intimité. On peut prier Dieu. On a une intimité avec lui qui est formidable. Et on peut s'approcher de lui quand on veut. Il dort jamais. Celui qui veille sur Israël. Et donc, c'est plus la même chose. Ceux qui ont été baptisés et revêtus en Christ, comme il dit au verset 27, hein, c'est-à-dire ceux qui ont été unis et enveloppés par Christ. Il y a maintenant une relation avec Dieu. Une relation qu'il n'y avait pas forcément. Il y avait une relation, mais elle était beaucoup plus dure sous la loi. Aujourd'hui, c'est vraiment une relation d'amour avec Dieu. Et ça, c'est vraiment préférable. C'est là où, quand on pense que les Galates veulent retourner à la loi, on se dit, mais ils sont malades. Ils sont malades, quelque part. Ou ils n'ont rien compris. Je pense qu'ils avaient plutôt rien compris. Et il dit, il n'y a plus de distinction entre juifs, grecs, esclaves. Alors, ce passage, hein, qui est bien souvent mal compris, hein, on en a parlé hier à la Réunion d'Hommes, hein, il n'y a plus de distinction spirituelle entre hommes, femmes, entre maîtres, esclaves, etc., entre païens, grecs, etc. À partir du moment qu'on a la foi, nous sommes tous au même niveau devant Christ. Si vous êtes un maître et que vous convertissez, vous êtes converti de la même manière que celui qui est esclave. Si vous êtes un homme ou une femme, c'est la même chose, on s'est tous convertis de la même manière. Il n'y a pas de distinction non plus chez le pécheur avant, de la même manière, quelque part, quand on y réfléchit. Donc il n'y a pas de différence à partir du moment qu'on est dans le péché, on est tous perdus. À partir du moment qu'on est sauvé, on est tous sauvés. Et ce n'est pas notre position sociale ou autre qui change. Mais la distinction homme-femme, comme aujourd'hui j'entends dire, pour justifier beaucoup de ministères, par exemple féminins ou pasteurs ou d'autres, ils disent « Ah oui, mais on est tous sur le même niveau ». Non, sur le même niveau spirituel, mais il y a toujours un homme et une femme dans la réalité. Il y a toujours un esclave et un maître. Et je dis ça simplement parce que Paul va dire plus tard « Obéissez à vos maîtres ». Donc Paul n'a pas mis un équilibre au niveau social, ça reste toujours. Il a mis simplement que nous sommes tous sur la même position au niveau spirituel. Donc l'esclave restait esclave, le maître restait esclave. Et ce n'est pas un argument pour dire aujourd'hui que, parce que la femme aujourd'hui a évolué socialement, etc., que d'un seul coup, elle peut faire certaines choses. N'oubliez pas que dans Timothée, il est écrit que l'ancien doit être mari d'une seule femme. Alors si une femme doit être mari d'une femme, donc on part dans l'homosexualité dans ce cas-là. Donc il y a un problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec le ministère féminin, chacun sa pensée, mais la Bible n'en parle pas. Et ce texte ne le justifie absolument pas du tout. Nous sommes tous en Christ, juifs et païens. Alors, autrefois, il y a, si vous lisez Romains 11, hein, autrefois, il y avait le peuple qui était les juifs, mais aujourd'hui, nous sommes greffés à cet arbre et nous faisons partie du peuple de Dieu. Et heureusement, juifs et païens, un seul en Christ par la justification. Alors pour nous, c'est facile de comprendre en tant que Français, quand on se convertit, bon, on fait partie des païens, on fait partie du peuple. Des fois, c'est plus confus par rapport aux juifs. Comme on a dit, les juifs croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils font partie du peuple juif. Non, ils ne sont pas sauvés. C'est seulement quand ils vont naître de nouveau. Souvenez-vous, Paul était juif. Et il était un juif ancré dans la loi comme personne. Mais à un moment, il a tout abandonné. Pour lui, c'était de la boue, comme il dit. Et il a accepté de vivre par la foi. Le vrai peuple de Dieu, c'est celui qui a été sauvé de la même manière qu'Abraham a été sauvé autrefois. Et même quand l'Église sera enlevée, il y aura une période qu'on appelle la tribulation, on sera toujours sauvé par la foi. Ça sera toujours la même chose du début à la fin. Pour autant, l'Église n'est pas devenue l'Église spirituelle. Alors, je ne sais pas si l'amillénarisme, prémillénarisme, toutes ces théologies qui existent aujourd'hui vous parlent, mais certains disent qu'on est déjà dans le millénium aujourd'hui et que, ben, comme Israël a failli à sa mission, puisqu'ils se sont fait déporter, donc aujourd'hui, toutes les promesses qui ont été faites à Abraham pénétreraient l'Église et seraient pour l'Église. Et ça, c'est complètement faux, parce que ça serait basé sur une alliance conditionnelle. Ça serait si Israël avait fait, alors ils perdraient, ou ils gagneraient, mais ils ont perdu, puisqu'ils n'ont pas fait. Mais on a vu que l'alliance est inconditionnelle au départ. C'est Dieu seulement, ça dépend que de Dieu. Donc cette alliance inconditionnelle, elle est pour nous encore aujourd'hui. Et les promesses qui ont été faites à Israël, vous allez dans les prophètes, si vous ennuyez cet après-midi, allez vous en plein, un pays, une nation, etc., toutes ces choses vont se réaliser littéralement quand Jésus va revenir instaurer son royaume pendant 1000 ans. Donc il n'y a pas de promesse pour l'Église venant d'Israël. Il n'y a pas de terre pour nous. Toutes ces choses-là, c'est pour Israël. Si vous avez des questions, venez me voir tout à l'heure, je vais rentrer dans le détail. Ceux qui sont à Christ sont donc la postérité d'Abraham. Pas une postérité physique, on l'a dit, mais une postérité spirituelle, justifiée par la foi. Nous sommes les héritiers selon cette promesse. Alors maintenant que vous avez tout compris de ce chapitre 3, est-ce que ça vous réjouit d'être héritier de cette promesse? Ça cogite encore un petit peu. Mais ouais, ça doit nous réjouir quelque part. Vous vous rendez compte, il y a des centaines d'années, tout ça, ça a été prophétisé. Hein, et aujourd'hui, on en profite. Et on va encore en profiter pour ceux qui se convertissent. C'est formidable. Le pécheur qui était, en fait, il y avait un mauvais scénario pour lui à la base avec la loi. C'était fini pour lui quelque part. Et s'il veut vivre comme ça, c'est son problème. Mais Dieu a mis un autre scénario, c'est celui de la grâce. Et c'est là où Paul, c'est pour ça qu'il a dit, vous êtes fous, là, quelque part. Mais pourquoi vous voulez revenir à la loi alors qu'il y a la grâce? C'est tellement mieux, déjà. Après, c'est pas parce que c'est mieux, c'est biblique, c'est théologiquement vrai. C'est ça qu'il leur fait un cours de théologie, là, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il s'étonnait que ces gens-là pouvaient revenir, tout simplement, à la loi. La justification par la foi offre la liberté. En tant que chrétien, il y en a souvent qui disent, « Ah, être chrétien, c'est dur. » Il faut aller à l'église, il faut obéir, il faut suivre le Seigneur. Vous voulez être sous la loi? Franchement, c'est super d'être par la foi. On est libre de faire tout ce qu'on veut, sauf ce qui nous fait du mal. Ça, c'est la vraie liberté, finalement, quand on réfléchit. C'est le péché qui me fait du mal, non? Et Dieu nous dit, arrête de pécher et tu iras bien et tu seras joyeux. Ça rejoint le texte de tout à l'heure, soyez toujours joyeux. À condition, évidemment, d'obéir au Seigneur et d'accepter de le suivre. Pour terminer, vous avez bien dormi cet après-midi, hein. À quoi ça peut me servir tout ça? Parce qu'on peut se dire, oui, c'est bon, ok. Première chose, peut-être, comprendre l'importance doctrinale. Parce que ça, je sais que tout le monde n'aime pas la doctrine, mais dans Galates, il y a des points doctrinaux essentiels qui ont des liens avec l'eschatologie, on a vu avec le ministère féminin, avec le salut, avec un tas d'autres doctrines qui existent. Alors, pour ceux qui aiment la doctrine, vous essayerez de voir dans la Bible, c'est peut-être prévenu, vous allez lire toute la Bible, essayer de voir les relations qu'il y a avec ça. Mais c'est important, il y a beaucoup d'autres choses qui sont bâties là-dessus. Deuxième chose, peut-être important pour moi, c'est bien comprendre que ce n'est pas parce que je fais partie d'une famille chrétienne, ou d'une église, ou je ne sais pas quoi, que je suis forcément sauvé. Il faut que je passe par la repentance, ni les œuvres, ni quoi que je fasse peut me sauver, il faut que je passe obligatoirement par la repentance. Pour nous qui l'avons fait, c'est bien, mais peut-être on a là des arguments pour ceux qui sont sous ce joug actuellement, pour essayer de leur faire comprendre que la loi était là pour, comme pédagogue, etc., pour bien faire comprendre aux gens. Et il y a de bons arguments peut-être, et qui peuvent déclencher quelque chose chez les gens qui marchent dans les religions. Troisième chose, le salut s'obtient par la justification, par la foi, ça on le sait, mais il faut le dire à ceux qui cherchent Dieu à un moment, et Jésus-Christ, qu'il faut qu'ils se repentent. Qu'il faut qu'ils aient la foi en Jésus-Christ, et évidemment qu'ils l'acceptent dans leur vie. Je pense que si vous prenez le temps un peu d'étudier aussi cette épître, vous allez apprendre à défendre la foi. Il y aurait quelque chose d'intéressant à faire, c'est voir comment Paul argumente, comment il met son argumentation en place. Vous avez vu qu'il emploie toute la Bible, il va jusqu'à Abraham, pour argumenter la grâce. Nous, on serait dit, on va rester dans Romains éventuellement, parce que Romains parle beaucoup de la grâce. Mais lui, il a vu que la grâce, elle était dans toute la Bible. Et là, c'est quelque chose qui doit nous pousser peut-être à plus la lire. Hein. Où est-ce qu'on parle de salut dans la Bible? Deutéronome, Exode, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous aimez les enquêtes, mais moi, j'aime beaucoup faire ça. Et puis, dernière chose, surtout, remercier Dieu. Je crois que c'est l'essentiel, même si on n'a pas forcément tout compris, mais on a compris qu'être gracié, c'est avoir évité la mort. La mort spirituelle, évidemment, et être heureux d'être quelqu'un de gracié, parce que cette grâce est totalement imméritée. On était incapable d'obéir à la loi, on était incapable de faire quoi que ce soit, mais le Seigneur s'est plu à nous gracier. Et non seulement il nous a gracié, mais il nous a donné la liberté dans la foi. Et ça, ça doit nous faire du bien, ça doit nous réjouir après tant de difficultés intellectuelles. Réjouissons-nous simplement d'être sauvés. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est inspirée évidemment, et c'est vrai que des fois elle est un peu plus ardue que d'autres, mais combien Paul était outré de voir ces Galates remettre en question cette grâce que tu avais offerte au travers de Jésus-Christ et de son sacrifice, et de vouloir retourner à leur ancienne vie, entre guillemets, à cette loi qui finalement nous est incapable de mettre en pratique, et surtout qui est une forme de malédiction qui conduit à la mort, mais qui devait justement mener à la grâce. Merci de nous l'avoir fait comprendre à nous, en tout cas, et moi je veux prier pour peut-être les Juifs, ou ceux qui sont dans des religions aujourd'hui, peut-être parmi nos familles, que tu nous aides peut-être à leur expliquer à un moment ce qu'est la grâce, la justification par la foi, plutôt que par la loi. Que nous nous réjouissions aussi aujourd'hui de cette grâce que tu nous as faite, pas en venant simplement le dimanche, mais que chaque jour nous puissions y penser peut-être, y réfléchir, savoir combien cela t'a coûté, et nous rendre compte de la grande liberté que tu nous offres aujourd'hui d'être enfants de Dieu. C'est formidable d'avoir un Père comme cela qui prend soin de nous chaque jour, et réjouis-nous tout simplement de ces vérités. En Jésus-Christ. Amen. Amen.